فيك مفيش حلمك يا
l'Orchestre national de Barbès avec l'équipe du monde diplomatique autour de ce numéro du mois de mars. Et nous consacrons cette émission tout entière à un seul des sujets traités par le Diplo ce mois-ci, ce que change le réveil arabe. On a parlé avec Akram Belkaïd de la Tunisie, avec Raphaël Kempf, on va évoquer l'Égypte. Il y a plein de différences, évidemment, vous avez peut-être remarqué, entre ces deux pays et ces deux histoires, même si ça nous a été raconté un peu de la même façon. On a découvert, entre autres, on va en parler évidemment avec Gilbert Achkar, que les frères musulmans ne sont pas si méchants que ça, ils sont même assez gentils. Notre nouveau ministre des Affaires étrangères les a rencontrés. Mais ce que Raphaël Kempf dit dans ce papier, c'est qu'en fait, on nous a présenté un peu la révolution égyptienne comme la révolution Facebook, hein, des classes moyennes qui, grâce à Facebook, communiquent enfin, et grâce à Internet, enfin, ça produit cette révolution. Or, évidemment, on évoquait ce qui s'est passé en Tunisie, c'est une longue fermentation, c'est un long travail, souvent désespérant de la part des uns et des autres, les classes moyennes et les autres, les classes populaires. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi. Ce que vous avez pu observer, c'est que il y a beaucoup de mouvements sociaux.
Énormément. Ce que laisse entendre mon article, en fait, c'est est-ce que ce sont les ouvriers qui ont fait tomber Moubarak ? C'est-à-dire que vu de France, on a l'impression que c'est les jeunes de Facebook, les jeunes de Midan al-Tahrir. On n'a pas l'impression que les ouvriers ont joué aucun rôle là-dedans. Or, on observe, ce sont des faits, quelques jours avant la chute de Moubarak, les ouvriers entrent dans la danse. Et on observe des grèves qui pètent de partout. Enfin, mais vraiment, hein. Moi, quand j'étais là-bas, je ne savais pas où donner de la tête. J'avais des contacts avec des groupes de gauche, trotskistes, des journalistes engagés, etc. J'essayais de savoir où aller pour voir des grèves. Et vraiment, il y en avait partout, je ne savais pas où donner de la tête. Ça, tout le monde voulait la tête de son petit Moubarak, du directeur de l'usine. C'est-à-dire, dans toutes les usines où je suis allé, on voyait les mêmes revendications sur les salaires, sur le travail temporaire, parce qu'il y a énormément de problèmes liés au travail temporaire, aux contrats précaires. Donc on demandait la consolidation des contrats précaires, par exemple, on demandait l'augmentation des salaires, on demandait un salaire minimum, et souvent on demandait un salaire maximum. Parce que je rappelle que la Constitution égyptienne, en son article 23, dispose qu'il faut qu'il y ait un revenu maximum admissible qui soit fixé. Voilà. Donc on demandait toutes ces revendications-là, et en plus on demandait la tête du président de la société. Voilà. Donc la question que je pose à partir de ces simples faits, c'est est-ce que ce sont les ouvriers qui ont fait tomber Moubarak ? Je ne sais pas, les liens de causalité sont souvent assez difficiles à établir, surtout dans ce genre de domaine. Mais c'est vrai que l'armée a fait tomber Moubarak peu de temps après l'entrée des ouvriers dans la danse. Et l'armée a cherché très rapidement, après la chute de Moubarak, à faire cesser ces grèves. Elle a lancé plusieurs communiqués pour appeler à l'arrêt des grèves, à l'arrêt des protestations. Ils ont envoyé des textos sur les téléphones portables que moi aussi j'ai reçus, où on me demandait de ne pas faire grève. Bon, je travaillais comme journaliste, je ne pouvais pas ne pas faire grève ce jour-là. Donc après, s'est développé un discours qui était le discours de la stabilité, appelant l'arrêt des grèves parce que ça crée des craintes pour les investisseurs internationaux.
Ah ben oui.
Ah oui. Ça crée des problèmes, les touristes vont plus venir.
Oula.
Donc voilà, on a un peu cette idée qu'on a eu la première partie de la révolution. Voilà, on a la liberté d'expression, on a des amendements constitutionnels qui vont probablement être admis par référendum par le peuple le 19 mars prochain, on pourra en parler. On a une démocratisation, des libertés, comme dirait l'autre, bourgeoises. Et maintenant, allons-nous avoir la justice sociale ? On a l'impression qu'il y a une force en Égypte, une force contre-révolutionnaire qui refuse que ces exigences de justice sociale soient satisfaites.
Mais c'est un peu la même chose que ce que disait Akram sur la Tunisie.
Oui.
Est-ce que le peuple tunisien a l'énergie, la conviction, la possibilité aussi de transformer cette première étape de la révolution en lutte sociale ?
Oui, mais c'est un problème. Enfin, je veux pas